de la belle visite à l'eau showbiz aujourd'hui pour la première fois. Dan Moisin, salut.
Hey, salut.
Comment vas-tu?
Hey, écoute, génial. Quelle belle région ici, quelle belle station de radio, c'est dynamique, c'est vraiment le fun. Ça vaut la peine de faire le trajet Québec-Sorel.
Merci de l'avoir fait.
Oui, ah, c'est un plaisir.
Album en français,
oui.
Après toute une carrière en anglais.
Ben oui. Ben,
ça s'est fait en pandémie, ça, non? Ce changement-là vers le francophone?
Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, il y a Mosquito Bay, qui est un projet musical que j'ai en début des années 2000. Je fais un album en français. Je fais un deuxième album franco, dont il y a 5 extraits radio. Et là, j'arrive pour faire le troisième album franco, qui s'appelle Raid. Je n'ai pas de subvention. Mais mon agent, qui à l'époque est l'agent de The Box, a fait une demande aussi à Toronto. Alors, il me téléphone et il dit « Dan, on n'a pas d'argent à Montréal, mais on a de l'argent à Toronto. À partir de maintenant, tu chantes en anglais. Bonne journée. » Alors, moi,
c'est réglé.
C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, écoute, j'étais un petit peu mal pris, parce que moi, ça allait très bien. Écrire des textes en français, là, ça coulait tout seul. Et là, il a fallu que moi, qui est parfaitement bilingue, je me suis rendu compte que j'étais littéralement un illettré. Écrire et faire quelque chose de fun, ça a quand même évolué très rapidement, au point que après 2 albums anglophones, 24 shows en Angleterre dans le cadre de 6 tournées, mes amis British me disaient « t'es vraiment un bon auteur ». Et là, je trippais de me faire dire ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on sort une chanson en 2020, en pleine pandémie, qui s'appelle « Nowhere Minus 20 ». Et après ça, quelques mois plus tard, je sors une chanson qui s'appelle « My Eyes » et je travaille avec Julie Brindamour, Yves Laramé de J Smile Records. Et là, il n'arrête pas de m'achaler pour que je fasse une version franco. Mais tu sais, se faire talonner, là, sans faire parler à chaque fois qu'on se parle, au point qu'on a quasiment plus envie de se parler. Et je dis « OK ». Parce que moi, j'étais comme frustré, tu comprends-tu? Parce que j'avais pas eu d'aide pour mon troisième album francophone. Et j'avais pourtant eu 5 extraits radio. L'album Le Sparadrap, ça a joué à tour de bras. Et j'avais même eu un hit dont j'étais plus ou moins fier parce que le titre était un peu étrange. C'était Patate Pilée, qui a été numéro 1 sur les radios satellites d'un maritime. Ça, c'est dans le temps de Hawaïenne. Tu vois que le discours volait plus ou moins haut à l'époque. C'était assez simplet. Et là, mais bon, j'ai accepté de rechanter en français. Et en pleine pandémie, l'été 2021, là, tu sais, regarde, tout est arrêté. Et en pleine nuit, je compose une chanson qui s'appelle « J'attends », qui est une balade. Et vraiment que je connecte, là, tu sais, c'était un peu la réalité de que je vivais, que j'avais des amis aussi qui vivaient des deuils et tout ça. Et là, je dis à Julie, là, j'ai sorti une chanson, pas en français, en québécois. Ça s'appelle « J'attends », puis je dis « moi », puis « toi », puis « en way », puis… Et là, elle a « Ah ouais, en tout cas, si tu la sors pas, je la sors. » Tout seul. Et là, elle l'entend, elle fait « Wow, c'est sûr qu'on sort ça. » Fait que là, on a sorti « J'attends ». Après ça, on a sorti « Perdu ». Mais finalement, on sortait une toune comme ça.
Oui, il n'y avait pas d'album. Là.
Non. Mais là, quand « Perdu » s'est mis à jouer en malade, là, on a dit « Coudon, es-tu en train de faire un album ?» Fait que là, j'ai poussé ma loc encore plus loin. J'ai sorti Fakir qui sonne très 80s avec des synthés. Puis j'ai tourné un clip avec une équipe de tournage à New Delhi en Inde qui a tourné des images. Moi, j'ai tourné des images à Québec dans le jardin Van Den Hen de l'Université Laval devant des plantes tropicales. Je me suis intégré quelques endroits avec un fond vert. Puis finalement, on dirait que tout se passe à Delhi. Et là, ça a été encore plus fort, le succès. Et là, après ça, il y a eu Sourire, encore une fois. Et là, un duo avec Mike Paul et une chanson qui s'appelle C'est ça qui est ça. Puis là, il y a Tant pis qui sort. Une chanson de Noël également qui s'appelle Un autre Noël qui a joué à tour de bras. Puis finalement, ben écoute, on avait un album. Mais cet album-là, ce qui est curieux, qui est sorti en juillet, ben, sur 11 chansons, il y en a 10 qui jouent à la radio.
Puis l'autre, parce que je sais, jamais été lancé.
C'est ça, elle n'a pas été lancé encore.
Le duo avec Mike Paul, c'est une union de deux communautés. En fait. C'est un autochtone. Puis c'est un hasard. C'est par la maison de disques.
Oui, parce que moi, cette chanson-là, Marcher ensemble, je l'ai composée il y a 2 ans. et j'ai proposé le duo à un artiste autochtone, mais en temps de pandémie, c'était compliqué, il était à Saguenay, il ne pouvait pas descendre. En tout cas, finalement, c'est tombé dans les calendes grecques et la chanson est tombée. Et quand j'ai vu qu'à un moment donné, Julie fait un post, puis elle dit qu'elle s'occupe de Mike Paul pour un truc promotionnel, tout ça, je dis « Hey, ça l'intéresserait-tu, lui? » Là, elle dit « Ben, parlons-nous. » Et là, finalement, la chanson carrément revécu là, de ses cendres et elle a été lancée. Puis ça a été vraiment le fun de travailler avec Mike. Ça a été très, très drôle. Il est venu dans mon studio. Écoute, on a fait ça, là, un peu comme quand les gars de Queen étaient c'était associés avec David Bowie à un moment donné, faire Under Pressure. Ils ont fait ça, fling-flang, puis c'était fait.
C'était un hasard complètement. C'est ils ça. Se croisaient, puis ils ont fait une tournée.
Ouais. C'est ça. Alors, ça a été bien, bien le fun. J'ai bien apprécié. Puis il m'a invité à aller à la pêche. Je suis pas encore allé, j'ai pas eu le temps.
Mais cette chanson-là était née du drame des orphelinats,
oui,
si je me trompe pas.
Oui, je trouvais ça épouvantable. J'ai des amis dans la communauté autochtone de la nation Innu. Des gens que j'apprécie, que j'adore, que j'ai rendu visite, m'ont emmené manger dans le bois. Parce qu'après le powwow, ils s'en vont comme défricher un petit bout dans le bois. Et ils passent un 2 mois là, okay. Un petit peu avant l'hiver. Et ils montent des camps. Puis, tu sais, c'est comme... Et là, ils t'amènent devant un lac que jamais personne n'a été ou à peu près là. Tu sais, t'as peut-être... 30 personnes qui ont été là depuis le début des temps. Et tu vois toute la nature qui est, et tu manges avec eux autres, tu vois leurs valeurs et ils ont réponse à tout. C'est ça qui est drôle. Tu poses n'importe quelle question par rapport à la nature, l'environnement, ils ont une réponse à tout. Et là, tu fais, OK, c'est deux univers, c'est deux notions du temps, c'est deux... Puis je trouve que nous autres, les Européens, On a voulu prendre un peuple puis le faire adhérer à nos valeurs, nos croyances, notre style de vie, puis tout ça. Quand il était très fonctionnel, tout allait bien, et en plus, il vivait 100 fois plus en harmonie avec la nature que nous autres. Alors moi, mon réflexe, quand j'ai vu ce drame-là, ça a été, on doit au moins s'excuser, mais s'excuser sincèrement. Tu sais, et il faut arrêter de regarder un peuple de haut tout simplement parce qu'il y a d'autres valeurs que les nôtres. C'est complètement ridicule. Et je peux vous dire une chose. Si moi, je me perds dans le bois, 1 milliard de fois, je vais préférer être avec un autochtone qu'être avec n'importe qui, même un GPS.
C'est sûr.
Tu comprends?
Oui, c'est sûr.
OK, alors, chacun sa spécialité, chacun son univers. Puis dans le fond, faisons coexister nos univers. Oui, voilà.
Est-ce que d'écrire en français, tu avais complètement mis ça de côté toutes ces années-là ou tu écrivais quand même? Ben, y a eu des romans, là, mais
ouais, j'ai écrit
est-ce
des
que
tu
écrivais un peu de chansons en français ou pas pantoute?
Pas du tout. J'étais.
T'étais vraiment fâché?
C'était pas tant que j'étais fâché, mais j'étais là. Crème, si tu fais 5 extraits radio qui ont joué là, pas à Québec, à deux coins de rue, qui ont joué partout, puis dans le Canada francophone aussi. Et que tu demandes de l'aide, mais que finalement, tu te rends compte que c'est un système, c'est une gang. Puis tu sais, si tu connais lui, tu connais l'autre, si tu es chum avec lui, si tu nuis pas dans le marché à tel artiste, là, tout d'un coup, on va t'aider. Sans ça, tu n'existes pas. Et tu sais, beaucoup d'organismes subventionnaires fonctionnent comme ça. Et moi, bien évidemment, je suis un publicitaire, je suis un auteur, je suis évidemment musicien. Donc, j'ai un côté entrepreneur. Fait que si j'ai pas l'argent, je continue d'avancer, là, tu sais. Alors, on prend les moyens, puis c'est tout. C'est ce qui a fait, par contre, que j'ai vraiment performé en pandémie, parce que j'ai jamais eu de subvention, vraiment.
Fait que, tu
sais, fait que je t'ai toujours été habitué, moi, de créer comme je pouvais.
D'avoir fait les premières parties de The Box, tantôt, mais de live, de ABC aussi. Oui. Est-ce que c'était un beau moment dans ta carrière? Tu as quand même côtoyé des légendes de la musique.
Écoute, ça a été incroyable. Ça a été super. J'ai fait aussi la c'est une anecdote, je peux te raconter, qui est extraordinaire. Mon deuxième spectacle en Angleterre. Je fais la première partie d'un groupe qui s'appelle Stack Ridge.
Okay.
Qui est un genre de jet rotol un peu commercial, mais qui n'a pas... Tu sais, un peu comme, mettons, Offenbach, qui n'a pas nécessairement sorti des frontières du Québec. Oh ouais. Mais eux autres n'avaient pas vraiment sorti des frontières de l'Angleterre. Et j'arrive au soundcheck, j'aperçois un petit gars, un homme d'à peu près 5 pieds 4, avec des petites lunettes, puis qui me dit un bonjour, très timide. Puis je dis, bon, je connais ce gars-là, moi. Mais évidemment, quand tu fais un voyage à l'international, tu te rends compte que tout le monde est le sosie de tout le monde.
Oh,
tu
oui, c'est ça.
Alors, tu vois que les combinaisons d'ADN sont à un moment donné, pognent leur limite. Et
oh,
là, il y a des doublons. Mais heureusement, à 10-15 000 km de distance. Et là, ce qui se passe, c'est que je demande au gérant de me raconter l'histoire de Stackridge. Et là, il dit, ben, Stackridge, fondant 69, ensuite se sont séparés et James Warren et Andy Davies ont fondé The Corgis. J'ai dit, quoi? J'ai dit, le groupe qui fait Everybody's Gotta Learn Something. Il dit, oui. Bon, mais j'ai dit, je fais cette chanson-là dans mon set depuis 4 ans. Et là, je regarde sur scène et là, je reconnais le type. Parce que quand j'ai appris la chanson, je regardais le vidéo sur YouTube puis c'était lui qui était là. Et là, écoute, arrive le test de son. Et je les vois partir, et nous, on monte sur scène, et je dis, partez pas, j'ai une chanson pour vous. Et là, mon drummer me dit, t'es sûr, t'es insultera pas, tu sais.
Il dit, c'est risqué, là, c'est edgy.
Je dis, écoute, j'ai dit, de toute façon, on reviendra plus jamais ici.
j'ai rien à perdre.
T'sais, voilà. Et là, je fais la chanson, la face leur tombe à terre, ils applaudissent, ils hurlent à tout rompre. Ils exigent qu'on fasse le show, dans notre show, qu'on fasse
la toune.
Leur toune. Et écoute, ce soir-là, on a un rappel de 15 minutes de temps, là, tu sais, pas rien qu'une toune, là, et les gens veulent en entendre. Et finalement, ça a donné, après ça, 22 autres shows en Angleterre. Mais c'était un peu flyé de performer la toune devant l'artiste original. Et ensuite, après l'avoir fait, là, tu écoutes le show et là, tu entends la version. Et j'ai eu aussi la chance, en Angleterre, de faire beaucoup de premières parties d'un groupe qui s'appelait Sgt. Pepper's Only Dartboard Band, qui était un hommage aux Beatles. Mais un hommage extraordinaire. Fait que tu finis ton show, tu bois ta pinte de stout et c'est les Beatles qui jouent live. C'était extraordinaire. Tu sais, j'ai également été choriste pour Samantha Fox en tournée. J'ai chanté aussi dans le cadre de la tournée québécoise de Carl Palmer.
Wow.
J'ai fait 2 tunes qui étaient Knife Edge et Lucky Man. Donc, je jouais momentanément le rôle de Greg Lake. J'ai eu la chance de côtoyer des gens vraiment le fun. Honeymoon Suite, qui est très, très sympathique. Ouais. Évidemment, Jean-Marc de Box, je pense que j'ai fait 3 fois leur première partie. Super, des super artistes, des artistes le fun. Saga aussi.
Wow.
Que j'ai choqué, semble-t-il.
OK.
Oui, parce que je fais leur première partie et eux, je suis au Capitole de Québec, et eux, ils pensent que je suis un guitariste folk, seul avec sa guitare. Et les gars rentrent pendant la fin de mon show pour aller dans leur loge. Et là, tout le monde est debout, puis tape des mains, puis c'est le gros rock. Puis ça en a qu'il y en a un qui est vraiment pas de bonne humeur, tu sais. Mais écoute, comment veux-tu upstager Saga? Je veux dire, Saga, c'est des virtuoses, tu sais.
Oui.
Je veux dire, au bout de 10 secondes, tout le monde m'avait oublié, là, mais je veux dire. Mais c'était très drôle de voir, là. Et ils s'en sont rappelés parce que j'ai un ami à Liège, en Belgique, qui a été voir Saga et qui a vu Michael Sadler. Il dit, j'ai un ami à Québec qui a fait votre première partie. Il dit, oui, Mosquito Bay. Il dit, oui, il était bon. Alors, c'était très drôle.
Mais est-ce qu'on hésite à revenir en français quand on a vécu tout ça? Évidemment, c'est un rêve, là. On rêve à ça, cette
oui,
carrière. Est-ce que les deux vont coexister?
Oui, mais là, c'est ça qui se passe. Il y a une toune qui va sortir bientôt en anglais qui s'appelle And Goes My Love. On a été tourner le vidéo à New York, sur le pont de Brooklyn. En tout cas, c'était à 5h30 du matin. C'était vraiment le fun dans Chinatown et tout ça. Fondamentalement, on veut toujours être connu chez soi.
Oui.
Y a des endroits où je suis beaucoup plus connu ailleurs qu'au Québec, ailleurs qu'au Canada. Mais quand je vois que exemple, CJSO, vous me jouez, on adore exister dans notre culture, dans notre langue, dans notre... L'autre côté, c'est un petit peu notre orgueil qui est content parce qu'on réussit à se faire un nom ailleurs. C'est le fun. Tu sais, ça veut dire qu'on...
c'est le trip de rockstar aussi.
C'est le trip exotique, là. Oui. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas, tu fais la première partie de ABC, t'es en banlieue de Londres, Tu sais, puis je veux dire, t'as été chillé à côté de Big Ben, puis le soir, ben tu fais un show devant 3000 personnes, puis t'es payé 2000$. Tu sais, j'étais super content, mais en revenant de là, j'ai subi une blessure au cou. Et c'est ça qui a vraiment shifté ma carrière. On est en 2013 à ce moment-là. Et il s'en est suivi un combat d'à peu près 5 ans. J'avais des hernies discales et plus aucune sensation du côté droit. Tu sais, c'était... ma carrière était finie.
Et ouais, puis, tu peux plus jouer de musique.
Jouer de la guitare. Je jouais de la guitare pendant, écoute, tu sais, genre 10 secondes.
Ça donnait mal. Ça
j'avais mal 2 jours de temps.
Wow.
Et là, c'était comme fini. Et tout d'un coup, j'ai pris mon mal en patience. J'ai évité chirurgie. J'ai fait de la méditation. Et j'ai attendu. Et à un moment donné, c'est revenu à 98%. Mais en même temps, dans la réhabilitation, j'ai renforcé énormément de trucs. Mes jambes sont plus fortes parce qu'évidemment, ça compensait pour les bras. Mais c'est pour ça que quand est arrivée la pandémie et que je voyais les gens capoter parce que le goût disait
«
Attendons 28 jours ». Moi, j'étais là. Tout le monde était là. C'était épouvantable. J'étais là 5 ans. T'essaieras de voir. C'est ça.
Est-ce que c'est plus personnel parce que c'est en français, t'as l'impression? Parce que c'est ta langue maternelle, c'est collé sur ta vie ou c'est un peu la même chose?
Ben, il y a des trucs qui sont autobiographiques. Il y a des trucs qui sont pas pantoute. Exemple, sourire, ben, c'est ma blonde. Elle a même tourné le clip. Elle est dans mon clip. Elle tourne avec moi. C'est vraiment... C'est très, très, très spécial. Il y a aussi, avec l'âge, avec l'expérience, tout est plus assumé. C'est qu'à un moment donné, la nouvelle chanson qui s'appelle « Tant pis », qui parle des rendez-vous manqués, de la timidité et tout ça, ben, tu sais, la chanson commence 1, 2, 1, 2, 3, os. Tu sais, parce que là, j'ai manqué mon punch. Parce que dans le fond, tout le long de la toune, je manque mon punch. Alors tu sais, je dis plus ce que je pense, je me fiche un peu plus que, tu sais, je suis plus dans les impératifs commerciaux.
Moins d'attente, peut-être,
ouais,
avec le temps?
Aucune attente. Aucune. Tu sais, on espère, mais il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de... Et c'est drôle parce que ça s'est mis à jouer à tour de bras à ce moment-là.
Ben oui.
J'ai fait à un moment donné un gros F-U-C-K, le fuck off. Et ça sera ce que ça sera. Puis écoute, quand j'ai fait Fakir, là, j'étais rendu arrogant. Là. Puis là, la compagnie dit, c'était là, ben écoute, ça va peut-être jouer, là, mais... pas sûr que ça va, puis finalement, ça a été un gros succès. T'sais. Mais je pense que quand tu as cette authenticité-là, à un moment donné, ça transparaît dans le...
Ouais.
Puis les gens de radio sont vraiment des connaisseurs. Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ils suivent », puis ça. Non. Quand t'as un problème, surtout dans la radio plus indépendante.
Oui, oui, oui.
Okay? Quand t'entends de quoi, tu dis c'est comme du faux cuir puis du cuir véritable. Là.
Oui, ben oui.
Mais vous, vous êtes capable juste à le regarder. Vous n'avez pas besoin d'y toucher. T'sais? Alors, c'est ça.
Mais donc, est-ce que ça fait du bien, ce côté assumé ou ce côté sans attente? Il y a une pression qui part quand on fait ça. Il y a une liberté.
Oui, mais c'est parce qu'en même
temps. Il y a un prix avec ça, mais quand même.
Parce qu'en même temps, faut que tu te dises, écoute, c'est mon métier. Je suis reconnu dans ce que je fais. C'est pas d'être prétentieux. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme si un boucher, quand il se levait le matin, il était là, le monde va-tu m'aimer? T'sais, à un moment donné, il connaît son affaire, puis il le fait, puis il y va, puis c'est ça qui fait que les gens vont y aller, puis vont aller acheter là, c'est parce qu'ils sentent qu'ils maîtrisent son sujet.
Ouais.
Okay? Puis quand tu es arrogant, ça paraît aussi. Tu perds en qualité, tu gagnes en vernis, puis en bling-bling, mais en qualité, ça se perd. Il faut toujours avoir un certain doute. T'sais, moi, j'ai été grand chum avec Bob Bissonnette, qui a enregistré ses premières chansons dans mon studio. Alors, on collaborait ensemble. Puis, le Bob qui doutait devant mon micro, ben, il a comme toujours existé. Pis c'est ce qui a fait que sa démarche, les gens ont toujours adoré, ont toujours accueilli cette franchise-là, cette honnêteté-là. Ouais. Il doutait, mais en même temps, il fonçait. Tu sais, c'était... je sais pas si tu as vu ce film-là, c'était extraordinaire. Mon Dieu, le wine... Comment ça s'appelait? En tout cas, c'est un. Ça se passe dans une communauté religieuse, dans un pensionnat, dans le coin de Charlevoix, le Wine Club, ou le. Et au début, tu as un prof de théâtre, un frère qui dit faut pas. Tu sais, le courage, c'est avoir peur, mais y aller pareil. Puis moi, c'est ça. Oui, on a peur. Oui, on doute. Oui, on ne sait pas. Oui, on a un peu d'attente, mais à un moment donné, il faut peser stop dans le studio puis dire « OK, c'est assez, puis ça va être ça, la toune. » Parce que moi, je pourrais faire une toune pendant 2 ans. Là. À un moment donné, il faut arrêter. Oui. Donc, il faut prendre un peu d'assurance. Sans ça, ça ne sort jamais.
Tu as travaillé avec plein de monde. En 2018, tu as travaillé avec Patrick Zabé pour une nouvelle chanson. Patrick, c'est un ami à toi.
Oui.
C'était comment ce moment-là? Parce qu'évidemment, il était malade déjà à ce moment-là. Est-ce que c'était chargé?
Patrick, on a fait 2 chansons. On a fait Le Zéro du Texto et on a fait Rockabilly, qui était pour sa petite fille. Et Rockabilly, écoute, c'était quand même impressionnant parce qu'il était dans mon studio et il a chanté sa dernière ligne. Il s'est assis, il a soupiré, il a dit « Bon, c'est assez, c'est fini ».
C'est la dernière fois.
Oui. Et moi, j'étais là, voyons, Patrick, voyons. T'sais, mais finalement, ça a comme pas mal été.
C'est sa dernière
ligne. Sa dernière studio. Là. Il a fait quelques trucs parce qu'on faisait des chansons personnalisées. Au lieu de Rockabilly, c'était rock à Stéphane, rock à Sylvie. Il chantait des trucs, mais c'est un homme incroyablement courageux qui se transformait en studio.
Tu revoyais jeune chanteur.
Patrick, j'ai été un publicitaire longtemps et j'étais son publicitaire de son magasin de jeans.
Oui.
Okay. Et Patrick, tout est à cause de lui. Tout est de sa faute. Si vous m'entendez, c'est de la faute de Patrick Zabé. Parce qu'à un moment donné, j'enregistrais à mon agence les 30 secondes radio, les publicités radio de mes clients. Et Patrick venait enregistrer. Et à un moment donné, je lui fais entendre une maquette. On est en 99-2000. Et il dit, Dan, fais quelque chose avec ça. Il dit, toi, tu as un potentiel international. J'étais là, oh, oui. Et j'ai fait un premier album. Il a d'ailleurs chanté des backs vocales sur cet album-là. Fait qu'on est toujours resté chum, mais la collaboration musicale comme telle, c'était pas, ça ne donnait pas. Puis Zéro du Texto, ça a été extraordinaire. J'ai voulu faire un genre de agadou assaisonné à la compagnie créole et ça a été, écoute-moi, c'est un grand frère, Patrick, c'est un mentor. Ça a été un mentor en affaires, dans ma vie personnelle. Ça a été un mentor musical. C'est un des gars les plus cool, les plus branchés, les plus informés que je connaisse. Puis évidemment, les gens disent « Ah, Agadou, Agadou ». C'est un gars, c'est une référence, connaît tout. Il analyse. Puis moi, d'ailleurs, Patrick est, la plupart du temps, la première personne qui entend mes tunes quand ils sortent. Avant qu'ils s'en aillent au mix final, au mastering, j'envoie ça à Patrick. Et je veux savoir ce qu'il pense de ça.
Puis s'il dit que c'est pas bon, tu le mets-tu pareil?
Écoute, il me dit pas ça. Il me dit non, ça arrive pas. Mais il me dit des fois, ah, ça peut-tu être plus vite ou ça? Ouais. Mais il adore le style. Ouais,
Mais il amène des suggestions.
Mais il me le dirait, là. Si ça faisait pas... Il dirait, à un moment donné, j'ai fait un remake pour lui faire plaisir de « Laisse-moi t'aimer ». À un moment donné, pendant la pandémie, on s'en foutait rien. Puis, écoute, j'ai fait la toune. Et puis là, il a dit « Non, c'est pas assez vite, ça ». Je t'en maudis parce que je pousse, tu sais, mais quand on chante à la fin, là, on blow pas à peu près. Puis on n'a pas envie de le faire 15 fois. En tout cas, c'était ça. Non, Patrick, c'est un gars qui a apporté énormément autant au niveau culturel qu'au niveau affaires. Et lui m'a convaincu parce que lui est un musicien qui est devenu entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur
qui est devenu musicien.
Et Patrick était le modèle parce que c'était la preuve que tout ça pouvait s'arrimer.
Bien sûr.
Puis, moi, j'avais une de mes... Quand j'étais jeune, j'avais une idole. C'était De Beaumarchais. J'avais vu un film avec Fabrice Luchini. Et De Beaumarchais était... un gars qui aidait des politiciens, c'était un marchand, mais c'était en même temps, il écrivait les Noces de Figaro, whatever. Il écrivait toutes sortes de il faisait tout. Puis ça se tenait.
Ça marchait,
Moi, j'idéalisais ça, mais je l'avais jamais vu ailleurs qu'au cinéma. Puis ça a été Patrick qui m'a montré ça.
Là, il y a une nouvelle chanson qui sort bientôt. Il y a une chanson en anglais aussi qui s'en vient.
Oui.
Est-ce qu'il y a un album en anglais qui s'en vient?
Ben, il y a un album que la pré-production est faite depuis 2019.
OK.
Et là, il reste juste à mixer.
Tu y touches plus
mixer,
ou tu rajoutes des affaires?
C'est parce que c'est, j'ai été surpris par le fait français, comme dirait
non,
un
mais
politicien.
Vas-tu rajouter des tunes ou il est vraiment comme ça puis il va sortir comme ça?
Non, il va y avoir des trucs qui vont changer.
Ouais.
J'ai déjà 3 tunes de fait de finaliser, masteriser et tout ça. Mais on va se rendre, je dirais, au moins une dizaine. Mais la plupart de ces chansons-là ont été faites dans les 5 dernières années.
Donc, est-ce que Dan Moisin et Mosquito Bay vont partir ensemble en tournée?
Ben oui.
Vas-tu faire ça? Vas-tu présenter les deux univers en même temps?
Parce que, tu vois, le prochain...
Dan Moisin va faire la première partie de Mosquito Bay.
C'est un peu le contraire. Parce que je t'explique, c'est que... c'est drôle, j'ai dit ça à un journaliste hier, parce qu'il pensait que Mosquito Bay était un band. Mais Mosquito Bay, c'était moi tout seul, pareil. T'sais. Puis là, j'ai dit, c'est la première fois dans l'histoire de la musique... qu'un artiste solo quitte son projet pour une autre carrière solo. Faut-tu être tout seul? Faut-tu vouloir être tout seul? Alors, c'est ça. Donc, le spectacle que je présente et que dont la première en tournée va se faire au Café Bar Le Zena, le café de Steve Hill à Trois-Rivières, donc pas loin de chez vous, c'est 20 ans, c'est 20-22 ans.
20 ans de carrière.
Oui, alors ça commence avec « Pas la peine », qui est le tout premier single, puis ça finit avec « Tant pis », qui est le dernier single qui est sorti le 1er septembre. Et c'est la rétrospective, puis en ordre chronologique. Donc ça commence en français, ça tombe en anglais, puis ça finit en français.
Puis ça va être le show que tu vas présenter.
C'est
en
le show, c'est ça qu'on présente. Et... c'est vraiment le fun et c'est drôle là, de jouer des chansons que quand j'ai commencé à pratiquer ça, des chansons que j'avais pas jouées depuis 20 ans live. Là.
Okay.
Et là, c'est là. Puis là, on joue ça. T'sais, fait que c'est vraiment trippant. Là. Moi, j'adore ça. Et les gens, c'est sûr que la fin, les gens la connaissent plus parce que c'est
la plus récente,
chanson récente, mais en même temps, je veux. Mais c'est de la pop. T'sais, fait que si c'était du gros prog, c'est sûr que là, on n'est pas ailleurs.
C'est ça.
Fait que là, on fait de la pop, les gens, ça passe bien, les gens aiment ça. Puis il y a des vieilles chansons comme Con, Patate Pilée, Le Sparadras, des chansons qui ont toutes joué à la radio partout au Québec. Alors, il y a des gens qui vont reconnaître, en tout cas, ou avoir une impression de déjà entendu.
Si les gens veulent suivre tes shows sur le web, on a toutes les dates.
C'est danmoisan.com. Ça tombe sur ma page Facebook de Dan Moisan Mosquito. Et puis, écoute, on annonce les shows. Moi, je vais où je joue. Alors, cette tournée-là, ça va être ça. Donc, moi, t'as un spot à Sorel, ça n'a pas besoin d'être des grosses salles de spectacle. Moi, j'y vais, je veux aller jouer parce que. Si tu savais le sentiment de gratitude que j'ai, parce que évidemment, il y a une grande partie de mon succès radio qui s'est faite en temps de pandémie. Donc, la seule façon d'avoir le contact avec le public, c'était vous. Là.
Ouais,
c'était la toune qui sort, puis les gens aiment la toune ou pas. Mais là, tout ça est derrière nous, on l'espère, là, parce qu'il y a eu des drôles de nouvelles le matin. Mais là, moi, j'ai envie d'aller voir toutes ces personnes-là qui ont... accepté de me donner 10 fois ma chance depuis fin 2020. Ce qui est quand même exceptionnel. Je connais pas grand album qui ont ce... Mais la raison est fort simple. Je suis pas meilleur que personne. Mais c'est juste que quand les chansons ont été faites, je comprends qu'on vivait en temps de pandémie et il y avait comme pas de lendemain. On savait pas trop de quoi demain.
T'es sorti une par une.
Alors, on sortait une chanson, mais la chanson qu'on sortait... On voulait que ça soit un single radio, parce que sans ça, comme je te dis, c'était la seule façon d'avoir le contact
sinon
avec le
public.
Tombé
dans le vide, ouais.
Alors sans ça, ça n'existe pas. Alors, j'ai évidemment fait des tonnes
de radio.
Alors, c'est ça. Mais le résultat, c'est quand même un peu étonnant. Tu prends l'album, tu regardes les tonnes, tu fais « OK, il y en a 10 sur 11 qui ont joué ». Fait que tu sais, c'est... Puis là, la 11e, je fais un vidéoclip. Prochainement, dans les prochains jours, ça s'appelle « Pareil », la chanson. C'est une chanson que j'ai écrite pour un cousin à moi qui souffrait de schizophrénie, qui est décédé il y a un an et demi. Et c'est un petit peu le combat quotidien d'une personne qui souffre de cette maladie-là. Parce que souvent, la schizophrénie va être associée à, des fois, de la maniaco-dépression. Mm-hmm. Donc, ces gens-là ont une imagination... fulgurante et gigantesque, mais en même temps, leur état fait qu'ils ne peuvent pas rentrer à bon port, peuvent pas aller au bout de leur truc. Fait que c'est une souffrance incroyable. T'sais, tu vois les étoiles, tu as le plan de la fusée, mais tu n'es pas capable de la bâtir. Alors c'est, et donc, c'est une vie d'isolement. C'est une vie où tu entends des voix de telle heure à telle heure. Puis, tu sais, tu sais plus, à un moment donné, tu perds le contact avec la réalité. Tu sais pas qu'est-ce qui est vrai ou faux dans tes perceptions. Et tu fumes, tu écoutes la télé, tu bois du Pepsi, t'attends. T'attends que ça passe. Alors, c'est un petit peu ça que j'ai voulu traduire avec cette chanson-là.
Dan, merci d'avoir été là.
Écoute, c'était un plaisir pour moi. Merci de m'avoir accueilli dans vos installations et votre bonne humeur et votre dynamisme. Je trouve ça tellement le fun parce qu'évidemment, on a tendance à penser qu'il y a 3 postes de radio au Québec, mais il y en a une tonne puis sont extraordinaires.
Ben, merci.
Merci beaucoup. Vous êtes notre cœur qui fait battre le cœur de bien des artistes.
Merci beaucoup.
Plaisir.